Il est 7h.
On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé.
La sidération des médecins alors que la deuxième vague déferle en Europe. En France, plus de 52 000 cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Chiffre record aussi en Espagne et en Italie où de nouvelles restrictions sont mises en place. Nous irons à Barcelone où la mesure est plutôt bien vécue. Paris appelle à la fin du boycott des produits français dans certains pays du Moyen-Orient. Des appels relayés après les propos d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. Jean Castex reçoit ce matin les partenaires sociaux à Matignon pour faire un point sur le calendrier de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. L'occasion surtout de faire un point sur les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19. Et puis, LOL, c'est le nom du premier chien d'assistance judiciaire en France. Un labrador chargé d'accompagner les victimes d'infractions pénales. Reportage dans ce journal.
Et juste après, on a beaucoup parlé de la recherche d'un vaccin. Ça ne suffit pas. La vaccination de masse, la distribution pose d'importantes questions de logistique. C'est l'éclairage éco. Le bras de fer franco-turc et ses appels au boycott de produits français dans le monde musulman. Le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Va-t-on pouvoir échapper à un reconfinement en France ? La question se pose alors que plus de 52 000 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de malades en réanimation aussi inquiète. Il dépasse désormais les 2 500. La deuxième vague est donc bien là, mais on ne l'imaginait pas si virulente, Anne Le Gall. Comment expliquer une telle ampleur ?
Eh bien d'abord, sans doute qu'avec les masques, les tests, une meilleure prise en charge des malades, une forme d'insouciance s'est installée dans l'esprit des Français cet été. Ensuite, même si le virus circule activement chez les 20-30 ans depuis le mois de juillet, ça ne se voyait pas, ils n'étaient pas malades. Les hôpitaux ont pu souffler, mais le virus s'est quand même propagé. Pour le professeur Gilles Pialou, qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, tout cela peut expliquer une certaine sidération face à cette deuxième vague.
On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire que, mais ça, c'est probablement des erreurs politiques d'avoir sous-estimé notamment le poids de la rentrée. Je parle de la rentrée scolaire, mais de la rentrée étudiante aussi, qui a probablement eu un facteur d'accélération du processus de diffusion du virus chez les plus jeunes.
Et enfin, la météo pourrait aussi expliquer le sursaut actuel de l'épidémie. Plusieurs experts l'évoquent. La pluie et le froid début octobre ont poussé les Français à rester en intérieur. Or, on le sait, les lieux confinés favorisent la transmission du virus, surtout s'ils sont mal aérés.
Anne Le Gall pour Europe 1.
Une deuxième vague qui touche aussi les autres pays européens. En Espagne, l'état d'urgence sanitaire a été décrété pour 6 mois jusqu'au début du mois de mai.
Avec la mise en place d'un couvre-feu dès 22 ou 23 heures, selon les régions, seules les Canaries ne sont pas concernées. C'était donc la première cette nuit et la mesure est plutôt bien acceptée à Barcelone, Henri de Laguerry.
Oui, parce que tout le monde est conscient ici de la gravité de la situation et puis l'ambiance n'était déjà plus la même car les bars et les restaurants sont fermés depuis 10 jours, d'où ce fatalisme qui domine chez Iris, la trentaine, prof au collège.
Oui, c'est dur, mais on finit par s'habituer à tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ? Se rebeller ?
Cette première nuit de couvre-feu qui a commencé ici à 22h et s'est terminée à 6h s'est bien passée. Les autorités veulent surtout mettre fin aux rassemblements alcoolisés entre jeunes. Des ados le reconnaissent, ça va être dur de rester à la maison le samedi soir. Mais pour Marta, employée de banque, c'est un moindre mal. Elle redoute surtout un confinement à domicile.
Les autorités disent déjà que si ça ne s'améliore pas d'ici quelques jours, on aura un autre confinement total. J'espère que ça n'arrivera pas, mais je m'y prépare mentalement.
Charles, français installé ici depuis 8 ans, est d'ailleurs persuadé que ce couvre-feu sera respecté.
Les Espagnols, de manière générale, ils ont été assez conciliants avec les décisions du gouvernement. Mais de toutes les manières, si c'est pour le bien de tous, ça me va.
La deuxième vague est arrivée très tôt ici, à la fin de l'été. Alors aujourd'hui, les Espagnols se sentent un peu moins seuls. Beaucoup observent d'ailleurs avec préoccupation la situation du voisin français.
Henri de Laguerry pour Europe 1. Face à la deuxième vague qui déferle, c'est finalement à travers toute l'Europe que l'on voit s'appliquer des formes de reconfinement partiel, Isabelle Horry.
Effectivement, ici à Bruxelles, par exemple, le couvre-feu va démarrer à 22h dès ce soir. Théâtre, musée, salle de sport ferment leurs portes aujourd'hui. Les bars et les restaurants, eux, ont déjà baissé le rideau il y a une semaine. La Belgique est l'un des pays les plus atteints sur le continent. En Italie, même type de mesure pour la culture et le sport. La restauration fermera à 18h, a annoncé hier le Premier ministre Giuseppe Conte. Un couvre-feu est en place dans les régions de Rome, Naples et Milan. Il devrait s'étendre cette semaine. Les restrictions se multiplient aussi à l'Est, qui avait été relativement épargné par la première vague. Couvre-feu en Slovénie depuis samedi, reconfinement partiel en Slovaquie, toute la Pologne placée en zone rouge. Et en République tchèque, où l'épidémie semble hors de contrôle, les déplacements sont restreints, les magasins fermés, les écoles en partie aussi. Mais le Premier ministre a prévenu hier qu'il allait sans doute falloir faire encore plus. En fait, il n'y a plus que le nord de l'Europe, Scandinavie et Pays-Baltes, qui semblent encore relativement épargnés par la montée en puissance de cette deuxième vague.
Isabelle Horry pour Europe 1.
Et cette deuxième vague, elle est mondiale évidemment. Dans le journal de 8h, nous vous emmènerons au Japon où on ne cherche pas là-bas les cas contacts, mais on cherche à tracer, à remonter la lignée de contamination antérieurement. Aux États-Unis, tiens, l'ambiance est au règlement de compte. La question est très politique. Joe Biden accuse Donald Trump d'avoir capitulé face à la pandémie.
La faute à ses propos ambigus du chef de cabinet du président américain. Il a déclaré sur CNN « Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins. C'est un constat honnête de la stratégie de Trump, a réagi son adversaire à la présidentielle. Espérer que si on l'ignore, le virus s'en ira.
7h06 sur Europe 1. La tension monte d'un cran entre la France et la Turquie. Erdogan a une nouvelle fois mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron.
C'est la deuxième fois en moins de 48 heures des propos jugés inacceptables par l'Élysée prononcés lors d'un discours télévisé.
Ces derniers temps, le président français est ébranlé. Il est obsédé par Erdogan, jour et nuit. Avant toute chose, regardez-vous et regardez où vous allez. J'ai déjà dit tout ça hier à Kayseri. C'est un cas mental. Il a donc vraiment besoin de subir des examens.
Et depuis, plusieurs pays du Moyen-Orient ont appelé au boycott de produits français, des fromages, des confitures et des produits cosmétiques retirés des rayons, Jean-Jacques Herry.
Sur 57 États musulmans dans le monde, on a pu observer des appels au boycott des produits français dans seulement 5 ou 6 d'entre eux. C'est donc une minorité. Pour cette raison, voir la vache qui rit disparaître des rayons des supermarchés du Koweït ne reste encore que de l'ordre du symbole, analyse Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po.
C'est du symbole et c'est du symbole spectaculaire. À l'époque des réseaux sociaux, il est bien évident que ces images de boycott de produits, même si c'est tout à fait secondaire, à la fois sur le plan économique et sur le plan diplomatique, évidemment, ça va produire un phénomène. En tout cas, c'est ce qu'on pense.
Un phénomène d'entraînement pas encore observable pour le moment, car toujours selon le chercheur, il sera difficile pour un pays d'assumer un véritable boycott, car il faudrait alors faire face aux sanctions anti-boycott de l'ensemble de l'Union européenne, avec qui les pays du monde musulman entretiennent des échanges plus importants qu'avec des pays comme les États-Unis ou la Chine. Cela n'empêche pas les condamnations diplomatiques. En revanche, dernière en date, celle du Maroc, la liberté d'expression ne saurait sous aucun motif justifier l'offense injurieuse de la religion musulmane, écrit dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères marocain.
La réponse d'Emmanuel Macron est sans appel. Nous sommes unis, rien ne nous fera reculer, jamais, a tweeté le chef de l'État. Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix et défendons le débat raisonnable, a-t-il écrit en français, en anglais et en arabe.
10 jours après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le préfet va devoir motiver son arrêté de fermeture de la mosquée de Pantin.
La décision avait été prise par Gérald Darmanin 3 jours après la mort du professeur d'histoire géo, mais un recours a été déposé par les responsables du lieu de culte. Le préfet va donc présenter lui-même les arguments qui motivent son arrêt de fermeture devant le tribunal administratif, notamment la publication de la vidéo du parent d'élève mettant en cause Samuel Paty et la présence d'un imam radical au sein de la mosquée de Pantin.
7h09 sur Europe 1, où en est-on ? Où en est-on de la réforme des retraites et de l'assurance chômage ? Jean Castex reçoit ce matin les partenaires sociaux à Matignon pour faire un point sur le calendrier.
Et pas moins de 17 thèmes sont à l'ordre du jour, mais Olivier Samin, les échanges vont surtout porter sur la réponse à apporter à la crise sanitaire.
Quand le rendez-vous pour cette nouvelle conférence avait été pris, c'était au mois de juillet, personne n'imaginait un retour aussi violent de l'épidémie, obligeant le gouvernement à mettre 46 millions de Français sous couvre-feu. Autant dire que l'agenda qui avait été bâti à l'époque risque d'être escamoté. On parlera sans doute un peu des nouvelles formes de travail, du partage de la valeur ou de l'évolution de la protection sociale, mais c'est sur les réponses à la crise et sur le sort des réformes actuellement dans les tuyaux que le gouvernement est d'abord attendu. Réponse à la crise, il y a des choses qui commencent à porter leurs fruits, dit le ministère du Travail. L'aide à l'embauche des jeunes notamment, et l'apprentissage. Sur les réformes, là, ça risque de chauffer. Jean Castex va-t-il maintenir l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'assurance chômage le 1er janvier prochain, alors que les syndicats s'y opposent farouchement? Quant à la réforme des retraites, l'échéance est un peu plus lointaine, mais la question du financement va très vite revenir avec son corollaire, travailler plus longtemps. Et là aussi, sujet explosif.
Olivier Samin pour Europe 1.
On s'intéresse ce matin à cette initiative dans le département du Lot. Nous vous présentons aujourd'hui le premier chien d'assistance judiciaire.
Et l'idée vient des États-Unis. LOL, c'est le nom de ce labrador qui accompagne les victimes d'infractions pénales et qui les aide à surmonter l'épreuve des auditions, du procès. C'est l'association France Victimes qui s'occupe du chien hébergé à l'année par les pompiers de Cahors dont il est devenu la mascotte. LOL a été spécialement dressé pour accomplir ses missions. Un reportage de Stéphane Place lors d'un procès en appel au tribunal d'Agen.
Agressés, frappés, dépouillés en pleine nuit chez eux à côté de Cahors, Jean-Louis et son épouse ont vécu un cauchemar l'an dernier. Et de la première audition jusqu'à ce procès en appel de trois hommes poursuivis pour ce vol avec violence, ces retraités ont été accompagnés par LOL, le premier chien d'assistance judiciaire de France. Un labrador au pelage noir brillant, spécialement formé à l'accompagnement des victimes et qui ce jour-là, au tribunal d'Agen, ne quitte pas Jean-Louis, venu raconter son calvaire à la cour.
Je suis sur le banc de la partie civile. Le chien est à côté de moi. Où il est assis, où il est couché, mais j'ai besoin de le toucher. Ce contact me fait énormément de bien. Je respire mieux, je suis moins stressé.
Un labrador devenu un atout incontournable pour l'association France Victimes, dans le Lot, à laquelle appartient Alexia Mesté.
L'idée, c'est que la victime, par la présence de ce chien, la caresse, le regard aussi, puisse se sentir un peu plus sécurisée dans des temps judiciaires difficiles pour les victimes. Donc LOL, il peut les assister au moment du dépôt de plainte, une audition en gendarmerie, commissariat, en cabinet d'instruction. Il peut être présent aussi aux audiences correctionnelles, des sessions de cour d'assises.
LOL a déjà effectué une quarantaine d'interventions auprès de victimes d'infractions pénales, des adultes, mais aussi des enfants. Agen, Stéphane Place, Europe 1.
Les sports à présent avec la victoire historique de Lewis Hamilton au Grand Prix du Portugal.
Le champion du monde a signé hier sa 92e victoire en Formule 1. Il dépasse ainsi le record de victoire de Michael Schumacher. Et puis un mot de football. Lyon a écrasé Monaco 4 buts à 1 hier soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Accroché à Nice, 1 partout. Lille laisse la première place du classement au PSG.
Merci Émilie Dez. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.